9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM comme chaque dimanche. C'est Voix au chapitre. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Bonjour Gilles Manceron.
Bonjour.
Merci d'être venu ce dimanche matin à Beurre FM. Parler d'histoire ce dimanche. Évoquer chaque année la manifestation du 17 octobre 61 qui a eu lieu à Paris est une nécessité mémorielle d'un pan sombre de l'histoire de France. Le 17 octobre 61, des milliers d'Algériens et Algériennes manifestent pacifiquement à Paris contre le couvre-feu qui leur est imposé par le préfet de police, Maurice Papon, qui leur a décidé le 5 octobre. Il s'ensuivra ce jour-là une répression sanglante. Des centaines d'Algériens sont noyés dans la Seine, d'autres seront arrêtés et emprisonnés. Que peut-on dire plus de 60 ans après de ce que fut le 17 octobre 61 ? Une nécessité de reconnaître la responsabilité de cette nuit sanglante, nommer l'État un crime d'État. Certes, des avancées, les évoquer rapidement, le président Hollande, alors qu'il vient d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle, va aller sur le pont de Clichy faire une déclaration. En 2021, pour le 60e anniversaire du 17 octobre 61, c'est le président Emmanuel Macron qui fera une déclaration sur le pont de Beson, en présence de nombreux Algériens, Algériennes, et de personnalités, d'historiens, dont vous êtes, Gilles Manceron, aussi présent, ainsi que je le suis, comme d'autres jeunes Algériens, Algériennes, qui vont être dans ce rassemblement. Enfin, dire cela en introduction, c'est dire la détermination qu'ont les militants et les militantes qui se rassemblent chaque année, qui se mobilisent le 17 octobre 61 à Paris, au Pont Saint-Michel, mais dans toute la France, depuis des années, dans ce combat de vérité et de dignité. Gilles Manceron, vous présentez d'abord, vous êtes historien. Vous avez publié de nombreux ouvrages, dont Marianne et les colonies. J'ai sous les yeux un des derniers livres dont vous relatez le 17 octobre des Algériens, au travers les témoignages de Marcel Pégeux et Paulette Pégeux. Et vous avez, vous, écrit dans une grande partie de cet ouvrage. Mais La triple occultation d'un massacre, ce livre est paru dans la collection Poche aux éditions La Découverte. Parlez avec vous, Gilles Manceron, de ce que fut effectivement... 62 ans après, la mémoire du 17 octobre, la mémoire historique et mobilisatrice aussi que vous portez hein, depuis de longues années. J'ajouterai à vos publications que vous êtes élu national de la Ligue des droits de l'homme et que vous êtes un des co-responsables d'un groupe de travail qui s'appelle Mémoire, Histoire, Archives. C'est dire l'importance et l'intérêt que vous avez à porter cette histoire du 17 octobre 61 à la fois dans une mémoire collective, dans une mémoire historique. Dans une mémoire collective, c'est important, dans une mémoire historique, ça l'est aussi, parce qu'elle veut dire aussi qu'il faut ancrer cette histoire du 17 octobre 61. Vous étiez enseignant d'histoire, je crois,
oui.
Et que c'est important pour vous. Vous avez été aussi dans ce collectif des historiens qui ont œuvré pour qu'il y ait dans les manuels scolaires la connaissance du 17 octobre 61. On reviendra sur ces mots connaissance d'abord et reconnaissance ensuite, dont j'ai parlé en évoquant 62 ans après, où on en est de cette reconnaissance des plus hautes autorités de l'État, on va le dire ainsi. Peut-être commencer par... Quand je dis que ça fait 62 ans que la date du 17 octobre 61 est inscrite dans la mémoire des Algériens, c'est sûr, des militants aussi, mais que quand vous avez voilà le sentiment que cette commémoration, cette mémoire du 17 octobre 61 est apparue dans la société française.
Alors, elle a mis beaucoup de temps à ressurgir, ou à surgir même, dans la société française. À l'époque, des Parisiens ont vu des faits, des incidents, des violences, mais ils n'ont pas compris exactement ce qui se passait, l'ampleur de l'événement, d'autant plus que la presse française a complètement dissimulé l'événement, ou la travesti, en parlant d'agression. Avec des armes à feu de la part des Algériens contre les policiers, hein, et ça c'est une sorte de fake news diffusée par Maurice Papon, préfet de police de la Seine, par le ministre de l'Intérieur Roger Frey, par le premier ministre de l'époque, et ces personnages et ce qu'ils représentaient dans la vie politique française ont fait en sorte que pendant plus de 20 ans il y ait un mensonge d'État sur cet événement, qui est un événement important, majeur, si on mesure l'ampleur de la répression de ses victimes.
Juste pour m'arrêter, si vous me le permettez, sur la presse qui évoque le 17 octobre 61. Il y a certes cette presse de droite hein, qui va faire donner bonne figure à la police, hein, à la répression policière face à ces hommes qui manifestent pacifiquement pourtant. Il y a quand même témoignage chrétien, l'humanité, qui va quand même donner un autre ton, un autre point de vue sur cette manifestation
des Algériens.
C'est vrai,
mais avec difficulté, parce que ces journaux, l'hebdomadaire Témoignage chrétien, essentiel à l'époque, le quotidien L'Humanité, le quotidien Libération, qui était proche de l'Humanité, qui était plus engagé dans l'indépendance algérienne que l'UMA, sont victimes de censure aussi. Oui. Et mesurent leurs termes. Un fait symptomatique, un photographe de l'Humanité, George Hazenstark, qui depuis son balcon sur les grands boulevards photographie un amas de corps d'Algériens assassinés et qui descend ensuite dans la rue pour les photographier, verra ses photographies disparaître du siège du journal. Donc l'UMA ne tient pas beaucoup à parler d'une initiative du FLN que le PCF ne veut pas rencontrer et du FLN qui mène une lutte d'indépendance nationale que le PCF ne soutient pas. Puisque totalement.
Parce que le PCF à l'époque dit paix en Algérie, mais ne parle pas de revendication d'indépendance comme le font les Algériens.
Voilà, et comme le fait le Parti communiste algérien en particulier. Oui. Dès 1955, il s'engage pour la guerre d'indépendance nationale avec ses propres méthodes et mots d'ordre. Mais en tout cas, les communistes français sont prudents sur ce sujet-là.
Par rapport à cette presse, donc vous en avez dit l'essentiel. Il y a quelque chose qui est important aussi, c'est qu'il y a les images de l'actualité. On est dans les années un peu plus tard, hein, après 61, en avant-première des films, on va dire comme ça. Il y a les images d'actualité qui sont que les gens dans les salles de cinéma, ils vont voir un film, mais juste avant, il y a l'actualité. Et là, on voit des images quand même.
Quelques images. Mais quelques images qui montrent des verres brisés, des vitrines cassées, qui ne rend pas bien compte de la nature pacifique et massive de la manifestation des Algériens, si on peut parler de manifestation, parce qu'il s'agissait de descendre dans la rue avec ses beaux costumes, hein, pour protester contre un couvre-feu discriminatoire, donc inconstitutionnel manifestement, imposé par le Premier ministre Michel Debré, par le préfet de police Maurice Papon et le ministre de l'Intérieur Roger Frey. Donc ce n'était pas relaté comme ça s'est déroulé. Hein, dans ces images qui étaient projetées, il y a un numéro de Paris Match,
on voit les hommes dans les bus de la RATP, on va le rappeler.
On voit qu'il y a une répression.
Il y a une répression,
mais
quand
on ne sait pas exactement pourquoi et son ampleur. En tout cas, peu d'informations exactes et pendant longtemps, le bilan de deux morts algériens sera répété par Maurice Papon dans ses bouquins et par le Premier ministre et dans toute l'histoire officielle pendant jusqu'au milieu des années 80. 1980, où là, après l'élection de François Mitterrand, disons que des journalistes de France 2, je pense à Trias, par exemple, Marcel Trias, commencent à raconter des choses, et d'autres. Hein. À ce moment-là, ressort et se produisent les premiers rassemblements. On parlera du prochain, le 17 octobre qui va arriver, les premiers rassemblements se produisent. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a 10, 20, 30 personnes maxi.
Surtout
des Algériens, des militants anticolonialistes aussi, oui, du MRAP en particulier. Il y a une camionnette, il y a des. Voilà, une petite sono, mais il n'y a pas grand monde. Mmh. Et dans les grandes organisations de défense des droits de l'homme, et je fais partie de la Ligue des droits de l'homme,
on fait partie.
Vous l'avez dit, la mémoire, elle a du mal à être. Portée à sa juste mesure.
Et qu'est-ce qui empêche qu'elle le soit ? À ce moment-là, c'est trop tôt d'en parler.
La société française a été tellement imprégnée de l'idée coloniale, de l'idée de des bienfaits de la colonisation, hein, pendant pratiquement un siècle avant même la guerre d'Algérie, hein, depuis le 19e siècle, avec une propagande d'État, que c'est bien difficile de remonter le courant. Les anticolonialistes qui existaient au 19e siècle, qui existaient à l'époque de la guerre d'Algérie, du Vietnam d'abord, de la guerre d'Algérie ensuite, eh ben, ils sont minoritaires. Et ils ont beaucoup de mal, ils rament à contre-courant pour dire les choses, les réalités de la colonisation et notamment de la violence répressive.
On va poursuivre dans le temps, justement, si vous le voulez bien, Gilles Manson. On est dans les... Voilà, on va faire un bon 20 ans après, 81, on commence à parler, hein. À parler de connaissance, parce que souvent on dit contre l'oubli, mais avant qu'on oublie quelque chose, il fallut qu'on le sache. Ouais. Donc effectivement, le 17 octobre 61 a été tué. On a souvent raconté qu'il avait été tué aussi dans les familles algériennes, mais la douleur était grande, et puis il fallait il fallait aller à l'usine, il fallait aller au chantier, il fallait continuer la vie de cette immigration, de ces familles immigrées, de ces hommes seuls d'abord, puis ensuite des familles. J'ai le souvenir dans certaines familles, pour les avoir entendues, que on le disait dans le cercle familial, mais on le disait pas à l'extérieur. Et puis après, c'était retenu. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup dans les familles. Les nouvelles générations ont porté la mémoire du 17 octobre 61.
Et les plus jeunes interrogent parfois
les grands-parents,
les parents, les grands-parents,
les
grands-parents qui disent des choses qu'ils n'ont pas dit à leurs propres enfants. Parfois, les grands-parents. Hein, il se passe la même chose que dans le retour de la mémoire des appelés français en Algérie, qui parlent à leurs petits-enfants peut-être, quelquefois.
Après, ça a été, c'est le lot de pas dire l'histoire, de pas dire l'horreur. Dans d'autres guerres, dans d'autres conflits, il y a eu ça, hein. Dans les deux grandes guerres, c'était pareil, hein. On ne disait pas aux enfants.
On préfère oublier les horreurs.
Voilà.
Ne serait-ce que ceux qui en ont été victimes pour continuer à vivre et à chasser ces mauvais souvenirs, si je puis dire, de leur esprit. Donc, il y a un ensemble de phénomènes qui se sont additionnés et qui ont contribué à cette occultation. Mais l'occultation officielle française me semble la principale à désigner.
Gilles Manson est l'invité de ce Voix au chapitre ce dimanche matin. On le retrouve dans un instant.
Voix au chapitre revient dans un instant. 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Poursuivons notre rendez-vous ce dimanche matin. Je rappelle que je reçois Gilles Manson. Gilles Manson est historien. Il est membre de la direction de la Ligue des droits de l'homme et il fait partie de ce groupe de travail qui mène un travail précieux d'histoire et de mémoire et d'archives, notamment sur la guerre d'Algérie, mais peut-être sur d'autres questions mémorielles. Gilles Manson, parlez du 17 octobre 61. Dans cette première partie, vous avez bien évoqué à la fois la presse et puis à la fois cette occultation. On va avancer dans le temps, si vous le voulez bien, près de plus de 60 ans après, justement. Qu'en est-il de cette reconnaissance? Qu'est-ce qui ont été les marqueurs, selon vous, de ces 40 dernières années, on va le dire comme ça, si on part de 80 ou à peu près de ces dates, qui ont été les marqueurs d'avancée, d'expression du combat des militantes et des militants, des associations, de celles et ceux qui sont porteurs de cette volonté de vérité sur le 17 octobre 61, parce que c'est de ça qu'il est question, parce que voilà, longtemps, on va les nommer Didier Deninx avec Meurtre pour mémoire, Jean-Luc Enaudi avec le travail précieux autour de son livre le 17 octobre 61 à Paris, avec ce travail minutieux de recherche dans les hôpitaux, dans les archives des hôpitaux, dans les archives fluviales, tout ce travail précieux qu'il a fait en nommant justement ces hommes disparus, parce qu'ils sont, il faut les nommer. Vous avez fait un travail, vous aussi, Gilles Manson, important de nommer autour de ces visages qu'on voyait avec des noms, des âges, dans la manifestation pour le 50e anniversaire. Donc, tout ce travail-là est essentiel, ce travail de livres, d'expositions, de films. J'oublie pas, évidemment, en 91, le film de Mehdi Lalaoui, Le silence du fleuve.
Et Octobre à Paris,
auparavant.
Dès 62,
de Jacques Panigel.
Jacques Panigel,
voilà.
Oui.
Qui avait été saisi d'ailleurs, ce film,
qu'il avait été. Et qui n'a été diffusé que dans les années 70 et au compte-gouttes, et qui est toujours d'ailleurs diffusé utilement dans certaines projections.
Alors justement, c'est pour vous demander tout de suite, toutes ces années qui ont produit de l'information, de la connaissance du 17 octobre 61, qu'est-ce qui a été le plus marqueur selon vous? Alors, ou le plus en tout cas qui a été important, essentiel et qui fait avancer l'histoire?
Alors moi je dirais que le mouvement pour la reconnaissance du 17 octobre 61 a commencé véritablement au milieu des années 80, au lendemain de la marche pour l'égalité, vous savez, de 83, suivi de celle de 84, et à partir de 85 et dans les années qui ont suivi, ça s'est renforcé au niveau des associations. Hein. Le MRAP, au nom de la mémoire, la Ligue des droits de l'homme s'y est mise, mais avec une certaine lenteur, et elle continue à être partie prenante.
Vous la bousculez un peu, alors?
Ben, on essaye, avec un certain nombre de collègues et d'amis, de l'impliquer, parce que à l'époque, comme je l'ai dit, la société française était imprégnée d'idées coloniales. La gauche française était imprégnée d'idées coloniales. On sait tous que les pouvoirs spéciaux au gouvernement de Guy Mollet ont été votés en mars 56 et ont permis de plonger la France dans la guerre. Et l'Algérie aussi, qui l'a subi. Et donc, c'est la gauche qui en est en partie co-responsable de cela. Et la gauche s'est pas beaucoup mobilisée contre les violences, y compris celles du 17 octobre 61. C'était plutôt des secteurs marginaux de la gauche, comme la revue Les Temps Modernes, hein, de Jean-Paul Sartre, et comme le comité Maurice Audin de l'époque, qui ont fait un travail d'information, mais limité forcément.
Vous avez rappelé le rendez-vous important dont on commémore cette année les 40 ans, la marche pour l'égalité contre le racisme, partie de Marseille le 15 octobre 1983 pour une arrivée le 2 décembre, 100 000 personnes à Paris hein, le 2 décembre. On aura l'occasion d'y revenir à Beurre FM évidemment, puisque on est partie prenante de cette commémoration. Sachez que, m'adressant aux auditeurs et auditrices, que ce 15 octobre 83, il y avait un rassemblement à Paris aussi, à la fois pour symboliser notre... voilà, les jeunes issus d'immigration, le collectif Jeunes de Paris qui organisait l'arrivée de la marche en décembre, organisait un rassemblement sur le quai de Valmy pour soutenir les marcheurs qui, eux, partaient de Marseille. Donc, il y avait une convergence de cette marche entre la marche pour l'égalité partie de Marseille, un rassemblement à Paris à ce moment-là, et on commémorait aussi le 17 octobre 61. Donc, on était dans une... parce qu'il y avait... l'histoire est différente, certes, mais il y avait aussi ce que vous avez cité, d'ailleurs, Gilles Brosson, le fait que cette manifestation était pacifique, la marche de 83 l'est aussi. Cette manifestation était pour dénoncer une répression,
un couvre-feu
discriminatoire. Mm-hmm. On marchait en 83 contre les discriminations, contre le racisme. Donc il y avait quelques ressemblances sont nécessaires de rappeler, de dire que ensemble il y avait ce rendez-vous historique qu'on commémore 40 ans après. On va poursuivre justement sur les marqueurs importants. C'est important que vous rappeliez les plaques commémoratives, tout ce qui fait sens aujourd'hui pour qu'il y ait reconnaissance, justement.
Alors, il y a une date importante qui est au lendemain de l'élection de Bertrand Delanoë comme maire de Paris, sa décision d'apposer une plaque sur le pont Saint-Michel en mémoire de cette répression. Et ça a été un moment, c'était la première reconnaissance officielle, non pas de l'État, mais d'une grande ville, la capitale de la France, Paris.
Où avait lieu la manifestation, d'ailleurs.
Où a eu lieu la manifestation, bien entendu. Et c'était une date importante, et je me souviens que cette inauguration avait été troublée par des militants d'extrême droite qui avaient essayé de la perturber, etc. Et donc, c'était un moment... Et cela a été suivi par d'autres reconnaissances à l'échelle locale, par des collectivités territoriales, des municipalités, des départements, qui ont fait des gestes, qui ont installé un monument, qui ont posé une plaque, nommé une rue, ou même un boulevard à Nanterre. Il y a un boulevard du 17 octobre à côté de la préfecture.
Et c'est pas rien. On peut féliciter l'association Les Oranges, Mohamed Yaki, qui s'est battue longtemps pour que, effectivement, sur ce boulevard, où il y a la préfecture maintenant, soit apposée le nom de la manifestation des Algériens.
Absolument. Et alors, il faut aussi mentionner l'association Au nom de la mémoire, qui se fonde en 88 ou 89, à la fin des années 80, et qui joue un rôle dans ces premières commémorations et manifestations, notamment sur le pont Saint-Michel. Et on les retrouve, les Oranges, Au nom de la mémoire, et plein d'autres. Association de l'immigration rejointe par beaucoup d'autres associations généralistes et des syndicats et des partis politiques dans les appels à manifester sur le pont Saint-Michel tels que le 17 octobre prochain.
On va y revenir sur justement la manifestation, le rassemblement sur le pont Saint-Michel sur le 17, ça va se passer le mardi 17 octobre à partir de 18h avec un certain nombre d'associations, la liste est longue comme la liste est longue de ce que vous venez d'évoquer qui sont les villes qui ont apposé une plaque, qui ont apposé une rue, enfin nommé une rue à la mémoire du 17 octobre 61 et il y en a beaucoup aussi en province, hein, à Strasbourg, à Marseille, à Lille, que sais-je, il y en a.
Ça se généralise en province.
Ça se généralise en région, comme
en région.
Maintenant.
Voilà. Je vais vous dire.
Mais peut-être sur la plaque commémorative qui est apposée sur le pont Saint-Michel, au-delà de l'anecdote, l'association Nom de la mémoire était dans l'hémicycle lorsqu'elle a été votée à la mairie de Paris. Le texte avait été lu par David Assouline qui a œuvré pour qu'il y ait cette plaque commémorative sénateur de Paris et mais la droite s'est levée et a quitté l'hémicycle la salle du Conseil de Paris parce qu'elle était, il y avait encore beaucoup de nostalgiques de l'Algérie française dans ce courant, s'il en est encore d'ailleurs, mais et après il y a eu ce que vous avez souligné effectivement quand elle a été apposée sur le pont, l'extrême droite pour ne pas la nommer, et d'autres courants qui s'opposaient à la plaque, à la pose de la plaque sur ce pont Saint-Michel.
Mais ils ont perdu un petit peu leur combat rétrograde
absolument.
Contre le retour de cet événement dans la mémoire.
Voilà, absolument. Et ça, c'est gagné de ce combat que vous menez ?
Ben oui, je pense que c'est l'effort de l'ensemble de ces associations qui ont fait des rassemblements notamment sur le pont Saint-Michel, ou parfois depuis les grands boulevards devant le cinéma Rex jusqu'au pont Saint-Michel, à certains moments, dans les anniversaires décennaux.
Les décennies, voilà.
Voilà, en 2001, en 2011. Et donc, ces efforts ont porté leurs fruits. Et en 2011, pour le cinquantenaire du 17 octobre 61, eh bien, le Sénat a adopté une résolution qui demandait notamment l'érection d'un monument. Ça a été fait par la mairie de Paris sur le pont Saint-Michel, plus visible que la plaque elle-même.
On vous retrouve Gilles Manceron dans un instant. Je rappelle que nous parlons de la manifestation du 17 octobre 61. Un rassemblement est prévu sur le pont Saint-Michel.
Voix au chapitre revient dans un instant. 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Poursuivons notre rendez-vous. Je rappelle que nous parlons ce dimanche matin du 17 octobre 61. Le 17 octobre 2023 est aussi au rendez-vous de l'histoire puisque à l'initiative d'un collectif important à Paris et de la région parisienne aussi, un certain nombre d'associations, d'organisations syndicales ou politiques organisent ce rassemblement qui aura lieu sur le pont Saint-Michel le mardi 17 octobre à partir de 18h. Avant de revenir sur à la fois les interrogations, les revendications peut-être que vous portez, Gilles Manceron, dans cette 72e commémoration de ce que fut le 17 octobre 61, crime d'État, vous le nommez ainsi dans votre texte d'appel. On va parler de revenir sur le 17 octobre des Algériens, qui ce livre paru dans la collection Poche aux éditions La Découverte, Marcel Péju, Paulette Péju, le 17 octobre des Algériens, dont vous avez fait un texte important, saisissant même dans ce livre, la triple occultation d'un massacre.
Oui.
L'occultation du massacre.
Oui, parce que on peut dire que ça a pris beaucoup de temps à ressurgir dans la mémoire, ou même à surgir dans la mémoire nationale, cet événement du 17 octobre 61, puisqu'il a été dissimulé pendant plusieurs décennies. Mais ça aurait pu se passer différemment si un certain nombre de raisons n'avaient pas fait que l'événement n'a pas été davantage connu. Et notamment, ce récit qu'a fait Marcel et Paulette Confet, Marcel et Paulette Péju, il devait paraître à l'été 62, au moment de l'indépendance de l'Algérie, autrement dit. Et il devait paraître aux éditions François Maspero, et il n'est pas paru, et pour différentes raisons, dont la volonté du gouvernement algérien de l'époque, qui se mettait en place avec Ahmed Ben Bella et Wari Boumediene, et qui ne tenait pas à ce qu'on parle de ce qu'a fait la Fédération de France du FLN dans la guerre, parce que celle-ci était devenue, à l'été 62, largement opposante à ce pouvoir qui émergeait de Ben Bella Boumediene, qui était plutôt pour la légalité du GPRA avec Ben Youssef Ben Reda, avec d'autres qui l'entouraient, Belkacem Krim en particulier, qui était pourtant un historique dans la lutte nationale. Et donc, la Fédération de France du FLN n'était pas en odeur de sainteté, si je puis dire. Et donc, la décision a été prise, a été encouragée de ne pas faire cette publication. Donc, cela a nuit à la connaissance de l'événement dans la société française, dans la société algérienne. Et il a fallu attendre beaucoup plus tard les travaux de Jean-Luc Enaudi, comme vous les avez rappelés, et puis des films, des ouvrages tels que l'ouvrage de Didier Deninx, Meurtre pour mémoire, et donc qui ont permis de parler enfin de cet événement grave, gravissime, parce que les historiens britanniques qui ont travaillé sur cet événement disent c'est le plus important du point de vue du nombre des victimes, des massacres de toute l'histoire de l'Europe occidentale contemporaine, au point de vue du nombre de victimes. Donc c'est un événement majeur et qui a été dissimulé.
Vous avez rappelé ce que le gouvernement algérien ne voulait pas reconnaître la Fédération de France du FLN. Qu'est-ce qui les empêchait de... alors que la communauté algérienne ouvrière à Paris se mobilisait pour l'indépendance de l'Algérie, était mobilisée au-delà du 17 octobre 61. Voilà, dans les familles, chacune de nos auditeurs sait combien l'importance de l'engagement de
pour la cause de l'indépendance. Oui, bien sûr. La Fédération de France était partie prenante de ce combat, de l'ensemble de...
C'est elle qui avait appelé à la manifestation.
C'est elle qui avait appelé à la manifestation et qui l'avait organisée. Mais à l'été 62, il y a donc cette mini-guerre civile, si je puis dire, au sein même du FLN et du GPRA du CNRA, du Conseil National de la Révolution Algérienne, qui se divise entre l'armée des frontières et bien souvent... dans les réunions organisées par la Fédération de France du FLN, les gens prennent position pour qu'il n'y ait pas l'armée au pouvoir à l'indépendance, quoi. On n'a pas fait 7 ans de guerre pour avoir un régime militaire dans notre pays qu'on a voulu libérer et livrer à des institutions civiles qu'ils voulaient démocratiques, sociales. C'était le courant principal dans l'immigration. Et dans la Fédération de France du FLN. D'où le fait qu'elle se soit retrouvée, comme d'autres vilayas de l'Algérie, plutôt dans l'opposition. Et il y a même eu des affrontements, des morts à l'été 62. Un collègue algérien qui s'appelle Amar Mand Amer vient de publier aux éditions Frantz Fanon en Algérie un ouvrage très important, issu de sa thèse sur l'été 62, la crise de l'été 62, qui est fondatrice de l'Algérie indépendante, de l'Algérie contemporaine. Et c'est à partir de ce moment-là que l'armée prend une option avec l'état-major général de Houari Boumediene. Et elle sera confirmée en 65 et au-delà. Dans les années 90, si je peux dire.
Quand vous écrivez la triple occultation d'un massacre, vous intégrez justement cette occultation-là qui est faite de la non-reconnaissance de la Fédération de France du FLN ?
Oui, mais c'est le troisième facteur en importance, si je puis dire. Le premier facteur d'occultation, c'est celui des autorités françaises qui dissimulent et mentent sur cet événement, et notamment sous l'influence de ce Premier ministre, Michel Debré, qui quitte le gouvernement au lendemain des accords d'Évian, mais qui restera influent dans la vie politique française. Et le premier facteur d'occultation, il est français. Il est aussi, il y a aussi un autre facteur qui est celui de la gauche française, mais qu'il faut relativiser, placer en second, comme il faut placer en troisième, à mon avis, l'attitude du gouvernement algérien Ben Bella Boumediene, si vous voulez. C'est des facteurs seconds, mais c'est vrai que la gauche française n'était pas très à l'aise par rapport au combat du FLN pour l'indépendance de l'Algérie. Elle ne l'a pas soutenu, contrairement aux communistes algériens, encore une fois, qui, eux, l'ont soutenu et y ont participé, si j'ai pu dire.
En tout cas, ce livre est précieux, hein, puisqu'il rappelle ce que fut le 17 octobre des Algériens historiquement, comme vous l'avez rappelé, et surtout cette triple occultation dont vous faites une grande partie de cet ouvrage paru aux éditions La Découverte, de ce que vous venez de développer.
Il a été réédité en 2021 en collection de poche, et l'éditeur m'avait demandé une postface qu'il actualise en quelque sorte, et il a intitulé cette postface de nouvelles révélations, et parmi les nouvelles révélations en quelque sorte entre 2011 et 2021, il y a plusieurs éléments. Par exemple, la déportation massive d'Algériens arrêtés dans la soirée du 17 octobre 61, déportation vers l'Algérie. Ce qui était présenté par les actualités télévisées comme le retour dans leur droit d'origine, ça y est, pour eux, tout va bien, ils reviennent au village, c'était pas du tout ça.
C'était forcé, bien sûr.
C'était forcé, et c'était dans des camps militaires où la mortalité était très élevée. On commence à le mesurer. Ça, c'est un problème qui augmente le nombre des victimes, en quelque sorte, parce qu'il y en a qui sont morts en Algérie après la déportation forcée qui a suivi le 17 octobre. Puis il y a d'autres facteurs qui sont apparus aussi.
On va inviter les auditeurs, les auditrices à lire ce précieux livre, le 17 octobre des Algériens, où vous avez, Gilles Manceron, je le rappelle, évoqué la triple occultation d'un massacre. Le temps est précieux aussi. Parler peut-être de cette édition qui est celle du 62e anniversaire du 17 octobre 61. Le mardi 17 octobre 2023, on se rassemble dans toute la France, je l'ai dit, mais particulièrement à Paris, sur le pont Saint-Michel à 18h. Et vous avez et un certain nombre dans votre appel, un certain nombre de revendications, d'exigences. L'exigence de vérité, de justice, de dignité, et bien d'autres encore, mais peut-être rapidement, si vous le voulez bien, nous dire un peu ce qui sera dit et rappelé ce 17 octobre 2023.
Eh bien, il faut un libre accès aux archives, en général pour les archives de la guerre d'Algérie, hein, puisque c'était une promesse présidentielle d'Emmanuel Macron en septembre 2018, quand il avait rendu visite à Josette Audin, la veuve de ce militant communiste, indépendantiste d'origine européenne, assassiné par l'armée française. Il avait dit, faut ouvrir les archives. Puis tout de suite, ça ne s'est pas produit. Et c'est un combat qui a été mené par différents archivistes et historiens, et qui reste à poursuivre. Donc, ouverture des archives, ça c'est un premier point.
On va peut-être, on n'aurait pas le temps d'évoquer tous les points, ils sont importants, ils seront évoqués lors du rassemblement, Gilles Manceron, si vous le voulez bien. Voilà, mais c'est un point essentiel hein, que vous avez déjà énuméré. On va, je rappelais en introduction effectivement des avancées qui avaient été faites par des déclarations des avancées à petits pas, diront certains, quand même porté aussi par le rapport de Benjamin Stora qui avait demandé des commissions justement entre des historiens français et des historiens algériens. Ça aussi c'est important, mais on aurait encore longtemps à parler. Un mot peut-être et je ferai une conclusion à la mémoire du 17 octobre 61 des Algériens en lisant quelques lignes du texte de Kateb Yassine.
Oui, alors je crois que la question de l'enseignement, de la place de cet événement dans l'enseignement de la colonisation et de la guerre d'Algérie est une question aussi que nous soulevons dans cet appel à nous retrouver sur le pont Saint-Michel mardi 17 octobre. Et nous demandons aussi que la vérité historique soit rétablie, notamment sur les responsabilités, parce qu'on parle beaucoup de Maurice Papon, qui s'était illustré pendant la Seconde Guerre mondiale par des aides à la déportation des Juifs de la Gironde, de Bordeaux. Et il n'y a pas que Papon. Il y a aussi des responsabilités politiques qu'il faut établir et désigner.
Merci Gilles Monceron. La gueule du loup, de Kateb Yacine. Peuple français, tu as tout vu. Oui, tout vu de tes propres yeux. Tu as vu notre sang couler. Tu as vu la police assommer les manifestants et les jeter dans la Seine. La Seine, rugissante, n'a pas cessé les jours suivants de vomir à la face du peuple de la commune ces corps martyrisés qui rappelaient aux propres Parisiens leur propre révolution, leur propre résistance. Oui, tu as tout vu de tes propres yeux. Et maintenant, vas-tu parler? Et maintenant, vas-tu te taire? Ce court texte est celui écrit par Kateb Yacine, et c'était quelque temps après la manifestation du 17 octobre 61. Merci Gilles Monceron d'être venu ce dimanche matin à Beurre FM, nous rappeler par fidélité d'engagement que vous avez et que vous avez aussi à Beurre FM, parce qu'on se retrouve à chaque fois pour que nous parlions sans cesse de cette mémoire du 17 octobre 61. On se retrouve la semaine prochaine pour un rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir à tous, au revoir.
Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.